Trainville PM. La voie est libre.
OK, il est de retour.
Le voilà.
Bon, alors, il y a du neuf sur l'affaire Epstein, hein, qui s'est suicidé, là, l'agresseur
enfin,
en série.
Enfin, qui a peut-être été suicidé, on
le
sait
ouais,
pas.
Ouais, tu as raison, je devrais le préciser. C'est peut-être. Toi, d'ailleurs, c'est ta thèse. Tu
Moi,
penses
je suis convaincu.
Qu'il... Mais t'as dit, je suis convaincu qu'il a été assassiné, mais par la suite, dans le fond, tu disais, ça se peut qu'il soit suicidé, mais qu'on l'ait laissé faire. Ce qui est une forme de négligence criminelle.
Ouais, mais là, c'est parce qu'il y a une enquête qui est entreprise. Déjà, le directeur de la prison a été suspendu. Deux gardes ont été mutés ailleurs.
Parce qu'ils étaient endormis, c'est ça?
Ils ont dormi pendant 3 heures alors qu'ils devaient faire une ronde toutes les 30 minutes. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est qu'un des gardes de nuit était soudainement un remplaçant. Cette nuit-là, c'était pas le même que d'habitude. C'était quelqu'un qui n'est pas un permanent de la place. C'était qui? On ne le sait pas exactement, c'était qui. Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé là, comme par hasard, cette nuit-là. Et ils ont falsifié les documents aussi. Donc, ils ne faisaient pas de ronde aux demi-heures, mais ils ont fait comme s'ils avaient fait des rondes aux demi-heures, parce qu'à chaque fois qu'ils faisaient leur ronde, ils inscrivaient qu'ils avaient fait leur ronde.
Alors qu'ils dormaient.
Alors qu'ils dormaient, selon les caméras qu'ils
ben
avaient
oui,
sur
c'est
place.
Ça, c'est ça. D'ailleurs, est-ce que... Parce que je suis ça, là, mais bon, pas de minute en minute... À un moment donné, il y a quelqu'un qui avait dit « On va être capable de voir Epstein se suicider. Si c'est vraiment suicidé, on va être capable de le savoir parce qu'il y avait des caméras. »
Oui, ça, je le sais pas, Bernard. Je le sais pas. Personne n'en a encore fait état, tu sais. Mais là, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est l'étau se resserrer autour de Ghislaine Maxwell, dont on a parlé l'autre
ben oui,
jour,
ben oui.
La fille du défunt Robert Maxwell. Et là,
qui était la grande amie et possiblement l'entremetteuse, celle qui lui amenait les filles, les mineurs.
Ouais, c'était la rabatteuse, d'après ce qu'on peut voir, ouais, parce qu'il y en a une de ces filles-là qui a déposé une poursuite contre la succession de Epstein et contre Ghislaine Maxwell. Et elle décrit comment cela se fait. Là, tu sais, devant son école, puis il y a une personne qui l'approche, puis ça a l'air que c'était Ghislaine Maxwell, puis qu'elle lui dit, ben. Viens donc, on a appris que tu voulais devenir actrice, on pourrait t'aider, il y a quelqu'un qui pourrait t'aider. Donc, c'était la rabatteuse, mais pendant un temps, c'était l'ami de cœur, où elle se faisait passer pour l'ami de cœur, où les deux faisaient en sorte qu'on pense qu'ils formaient un couple.
Oui. Ça arrive, ça, hein?
Ça arrive.
C'est déjà arrivé, ça, mettons. Hein?
Effectivement. Mm-hmm. Et là, Mme Maxwell, on dit, elle est. On ne sait pas où elle se trouve. Non.
On ne l'a pas retrouvée depuis...
Le Daily Mail vient de la retrouver. Le Daily Mail, le fameux tabloïd britannique, là, elle se trouve présentement à Manchester-by-the-Sea, dans l'État du Massachusetts, dans une maison avec, paraît-il, un compagnon. Personne n'a réussi à lui parler encore.
Et elle ne fait face à aucune accusation pour le moment.
Pour le moment, elle ne fait face à aucune accusation, mais on dit que l'enquête commence à la viser pas mal directement. Mais... Tant qu'il n'y aura pas d'accusation de portée contre elle, cette femme-là, elle a la citoyenneté britannique, elle a la citoyenneté française, elle a la citoyenneté américaine, elle peut prendre un avion puis disparaître pas mal vite, là, à moins qu'il se passe quelque chose. Il n'y a pas d'accusation portée contre elle, il n'y a rien qui l'empêcherait de quitter le pays.
Mm-hmm.
Alors, là, t'as cette série de poursuites. D'abord, c'était la première, là, une dame qui s'appelle Jennifer Arreos. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mm-hmm. qui a 32 ans et qui prétend qu'elle a été carrément violée par Epstein quand elle avait 15 ans et qu'après ça, elle allait le voir à chaque semaine pour lui faire un massage. Au départ, c'était juste pour causer. Puis après sa causerie d'une heure, une heure et demie avec M. Epstein, il lui donnait 300 piastres. Puis là, ben après ça, il a commencé à la convaincre qu'il aurait peut-être besoin d'un petit massage. Puis là, ben, c'est le massage. Puis après ça, ben, le massage devenait de plus en plus...
Intime.
Et jusqu'au jour où il l'a carrément violée, il l'a fait monter sur lui de force. Et bon, cette femme-là a déposé des poursuites contre sa succession et contre Ghislaine Maxwell. Tout ça continue d'être extrêmement nébuleux. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là dans le centre de détention? Moi, j'espère qu'on va le savoir un jour. Et là, ce qui me rassure, c'est que les médias britanniques accorde une très grande importance à cette nouvelle-là. Et les médias britanniques, comme tu sais, quand ils se mettent les dents après un os,
oui.
Les autres, ils lâchent pas. Hein? Ouais. Alors là, de voir le Daily Mail sur le coup, de savoir que le New York Post s'intéresse beaucoup à la chose, de savoir tout cela m'encourage à penser qu'on va peut-être un jour connaître la vérité dans toute cette histoire-là. Mais pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est très alarmant.
Est-ce que tu crois, parce que c'est l'effet qu'on a eu au départ, là, que ça allait prendre une dimension politique très importante? Est-ce que avec quoi ça fait maintenant, là, quoi, 72 heures, là, peut-être même un peu plus, que c'est dans l'actualité, là?
Ça fait pas mal à Trump.
Ben moi, je pense que ça aide Trump. En tout cas, ça aide sa base, ça conforte sa base, encore une fois, là, parce que ça lui permet d'attaquer les Clinton, les démocrates, appeler au scandale, dire qu'il y a un complot derrière ça.
On va voir d'autres choses sortir en passant dans les prochains jours, parce que vendredi dernier, donc la veille de son apparent suicide, il y avait dans le cadre d'une poursuite juridique, dans le cadre de des accusations portées contre lui, 3000 pages de documents ont été déposées, et parmi ces documents-là, il y a son fameux calepin noir, dans lequel il prenait les noms et numéros de téléphone de gens, ses contacts. Alors, il y avait par exemple le numéro de téléphone cellulaire personnel de Donald Trump. Il y avait toutes sortes de numéros.
On sait ça? On sait?
Oui, oui. Il y avait également plein de numéros pour rejoindre Bill Clinton. Il y avait du monde comme ça partout.
Tu veux pas avoir ton nom dans le petit livre noir? Hein?
Ben, il y a des Canadiens dans le petit livre noir.
Tu l'as?
Le mien n'est pas là, Bernard. En fait, j'étais très gêné. Mais je me suis dit, mais comment ça se fait? C'est parce qu'il le savait par cœur. Il avait pas besoin de... Mais il y a des Canadiens, puis il y a des Montréalais.
Ah oui?
Moi, je ne l'ai pas vu, la liste, mais on m'a rapporté tout à l'heure que... Il y a des Montréalais plutôt en vue qui étaient dans le petit calepin noir de M. Epstein. Alors, les journalistes canadiens viennent de mettre la main sur le fameux calepin noir déposé vendredi dernier. Ils viennent de mettre la main dessus hier. Puis là, ben, ils appellent à droite, à gauche. Comment ça se fait que vous étiez dans ça? Alors, il y en a qui commencent à trouver la soupe assez chaude, merci.
Ben, oui?
Ah oui, 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 oui.
Tu sais?
Oui, je sais dans un cas ou deux, en effet. C'est...
Parce que là, il y a des gens qui vont devoir expliquer leur lien avec Epstein.
Oui.
Hein, c'est
oui,
ça?
Oui, tout à fait.
Où est-ce que vous l'avez rencontré?
C'est ça.
Qu'est-ce que vous avez fait avec? Ouais. Êtes-vous allé sur son île? Est-ce que vous êtes allé dans son appartement? Est-ce que vous avez déjà mangé au resto avec monsieur? Est-ce que vous avez déjà été en présence de monsieur et de jeune femme?
Oui, tout ça, toutes ces questions-là.
Par exemple.
Toutes ces questions-là. Mais la première question que les journalistes canadiens posent, c'est... Comment ça se fait que votre nom est là?
Mais non, mais c'est sûr.
Il y en a un, je ne veux pas le nommer à l'heure actuelle parce que je trahirais la confiance d'un collègue journaliste, mais il y en a un très riche Montréalais, qui a parlé aux journalistes et qui a dit « Ah, tu sais, ce monde des financiers de New York, tout ça, il y a un côté très dépravé à ça, puis il ne faut pas commencer à essayer d'interpréter la présence de mon nom comme signifiant que j'étais complice dans quoi que ce soit. Je me suis retrouvé peut-être à des endroits où il était. » Bon, alors, tout ça va continuer. Tout ça va suivre son cours. Et un jour, je ne sais pas si on va apprendre qui était vraiment Jeffrey Epstein. Écoute, le gars est tellement mystérieux. On n'a vraiment aucune idée comment... On parle du financier. D'où vient son argent? On parle d'une fraude pyramidale à la fin des années 90, mais lui n'avait pas été condamné, son associé l'avait été. Évidemment, il avait fait de l'argent dans la fraude, là, pour combien, là? Mais on parle d'un gars qui valait 500-600 millions de dollars, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Écoute, on aurait... Même si c'était un gars qui jouait dans les hedge funds, qui est un milieu très ésotérique et mystérieux, on saurait au moins qu'il y a une trace dans les hedge funds. On sait qui transite, qui fait des transactions à travers les hedge funds. On ne sait rien. On sait pas.
Comment il s'appelle, l'entrepreneur? Epstein s'est collé sur lui. Il lui a fait confiance. Il lui a permis de s'enrichir. Et finalement, il a réalisé un peu sur le tard que Epstein l'avait siphonné puis l'avait abusé. Là. C'est le New York Times qui nous révélait après son arrestation d'Epstein. Il racontait un peu l'histoire. Il racontait un peu comment Epstein avait réussi, dans le fond. Il était très habile pour tisser des relations de confiance avec des gens très fortunés. Et... à leur faire croire qu'ils pouvaient les aider dans leurs affaires et éventuellement, ils réussissaient à s'enrichir au contact de ces gens-là.
Absolument. Mais 500 millions, Bernard, c'est beaucoup, beaucoup d'argent.
Hey, je sais.
Ça pousse pas dans les arbres. D'où ça vient, cet argent-là? On sait rien à peu près de sa famille. On sait juste qu'il y a un frère qui s'appelle Mark, dont on sait rien. Le gars est venu de nulle part, puis soudainement, boum, il domine la scène mondaine de New York en compagnie de Ghislaine Maxwell, fille d'un des grands espions de l'histoire du Mossad en Israël. Tout ça, là, ça ressemble, parce que tu vois, mes amis israéliens aimeront pas ça, mais un des très grands héros de l'histoire d'Israël, c'est un monsieur du nom de Eli Cohen. Eli Cohen, c'était un juif né qui a grandi au Caire, en Égypte, et qui, à un moment donné, donc il parlait parfaitement arabe, mm-hmm. à un moment donné, il s'est en allé vivre en Argentine, et là, ils ont refait toute une histoire. Tu sais, faut que tu crées une histoire.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, il y avait un nom, puis il y avait une histoire mm-hmm. derrière lui, mm-hmm. puis il était devenu un expert en import-export à Buenos Aires, puis à travers ça, à un moment donné, il s'est retrouvé ami avec des gens de l'ambassade de Syrie, puis à un moment donné, tellement que l'ambassade de Syrie a eu recours à ses services comme aviseur, puis à un moment donné...
Il a infiltré,
monsieur,
dans le fond, les réseaux influents du monde arabe.
Il est rentré à Damas, et puis il est devenu... proche de Hafez el-Assad, environ 2 ans avant que Hafez el-Assad prenne le pouvoir, alors qu'il était à la tête des armées.
Wow.
Et on le crédite de toutes sortes de coups extraordinaires, dont un, c'était que sur les hauteurs du Golan, jusqu'à 1967, dominé par la Syrie, il y avait des bunkers où il y avait des soldats jordaniens qui étaient installés là. Et il faisait une chaleur à faire crever. Alors, Eli Cohen, qui avait un autre nom, avait suggéré que peut-être qu'on devrait planter un arbre d'eucalyptus parce que ça pousse très vite puis ça me ferait de l'ombrage au-dessus des bunkers en question.
De cette façon-là, les Israéliens
La guerre de 6 jours a commencé, ils se sont installés en avant des hauteurs du Golan puis ils ont tiré dans les eucalyptus. Hein, c'est pas bien compliqué.
Bien clair.
Alors, ce même monsieur Eli Cohen... que Israël aime porter comme un héros national parce qu'il s'était fait démasquer et tout. Comment il fonctionnait, effectivement, quand il était à Damas? Comment il a fait pour devenir si influent avec tout ce monde-là? Eh bien, il faisait c'était un grand mondain qui recevait chez lui, avec tout ce que tu pouvais imaginer de meilleurs vins, de meilleurs mets fins, tout ce que tu veux, et qui avait beaucoup, beaucoup d'amis femmes qui se retrouvaient là. C'était devenu comme le mondain... ami du pouvoir, hein? Ça ressemble drôlement à Epstein. Ça ressemble à un pattern de la part d'Israël. Planter des espions dormants, ça, les Russes ont fait ça pendant des années. Ils continuent sans doute de le faire. Israël le faisait aussi, mais ils ont l'air d'avoir atteint un niveau de raffinement.
De sophistication.
Absolument incroyable, parce que tu regardes donc le cas de Robert Maxwell lui-même, hein? Puis oublions pas, il y a eu des funérailles nationales au Mont des Oliviers. Et ça, il a été enterré à côté des tombes de Golda Meir, David Ben-Gourion et tout ce que tu veux. Et Shamir, qui était premier ministre à l'époque, a dit « On ne peut pas encore vous dire à quel point cet homme a été un des hommes les plus importants depuis la création de l'État d'Israël. »
Service rendu.
Alors, ce que je veux dire par là, c'est le cas Epstein ressemble tellement, et la présence de Ghislaine Maxwell et tout ça, ça ressemble tellement à un pattern qu'un jour, j'espère qu'on le saura.
OK, un jour.
Un jour.
On continue à suivre ça. Après la pause, on va parler de Greta.
Voilà.
Greta, la jeune environnementaliste qui a...
Pas Greta Garbo, là.
Non, Greta Thunberg.
Voilà.
Qui met le cap sur New York à bord de son voilier zéro carbone. J'ai hâte de savoir ce que t'en penses de Greta, toi.
Qui appartient à la famille princière monégasque, comme tu sais. Enfin.
Tu vas nous en dire davantage après la pause.